les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Auditeurs et auditrices, on se retrouve comme chaque jeudi pour les Ondes Buissonnières, votre émission des pépites auditives sélectionnées par la rédaction. Pour ce 9 juin, on s'intéresse à la transmission en milieu rural et plus particulièrement dans l'agriculture. Des parcours d'hommes et de femmes, c'est le nom de ce premier épisode. Bonne écoute!
Transmettre l'affaire de toutes et tous. Épisode 1. Des parcours d'hommes et de femmes.
Quand nous questionnons autour de nous ce que signifie être paysan et paysanne, on nous répond souvent « c'est pas juste un travail ». Alors, qu'est-ce qui se joue après avoir été agriculteur et agricultrice toute une vie ? Comment, une fois arrivé à l'âge de la retraite, on cesse son activité ? Et qu'est-ce qu'on transmet dans tout ça ? Voici deux histoires de transmission. Martine et Jean-François pensaient transmettre à leur fils. Et finalement, ce sera Adeline leur repreneuse. Quant à Serge, il pense ne rien avoir réussi à transmettre et n'arrive pas à quitter la maison qu'il a vue naître. Premier épisode d'une enquête radiophonique sur les enjeux de la transmission dans le monde agricole aujourd'hui.
Je m'appelle Martine Piot et j'habitais au Crêt à Nau. Donc je m'occupais de l'élevage des volailles et de la transformation, de la commercialisation. Et puis toujours tout ce qui était comptabilité, facturation. Et Jean-François s'occupait des brebis, enfin du troupeau, des terrains et de tout ce qui était Pâques, etc. Enfin, toutes ces déclarations pour le troupeau et l'exploitation.
Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les années 50, le nombre de fermes diminue sur le territoire, et c'est à peu près 3% par an. C'est assez conséquent. Aujourd'hui, c'est à peu près 200 fermes qui disparaissent par semaine et qui vont souvent agrandir les suivantes. Je suis Dominique Lataste, je suis psychosociologue dans un cabinet qui s'appelle Autrement dit, qui est basé à Riorges, et je travaille notamment sur les questions de la transmission. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, bien sûr, c'est que dans 10 ans, selon la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, à peu près la moitié des agriculteurs actifs aujourd'hui seront à la retraite.
Quand on était en GAEC, j'étais membre du GAEC, donc exploitante agricole. Et puis quand on est passé en individuel, à l'époque on ne pouvait pas être en GAEC mari-femme à un ou deux ans près. Et du coup j'ai été conjointe d'exploitant. J'attendais ma retraite avec impatience pour arrêter toute cette activité que j'avais et puis qui commençait à me peser beaucoup. J'ai l'impression d'être plus libre maintenant, quoi. C'est vrai que j'ai plus ressenti la retraite, vraiment, quand Jean-François a pris la sienne. Parce qu'en fait, je me rends compte maintenant que... Bon, je travaillais plus du tout pratiquement plus sur l'exploitation. Bon, à part un peu la comptabilité, mais qui était quand même plus que simplifiée une fois qu'il avait pris les volailles. Mais on avait quand même... une petite activité, et là, de se retrouver tous les deux sans rien, c'était, je trouve que c'était plus pesant que quand moi, j'ai pris ma retraite. Pour le stage transmission, je n'y ai pas participé, mais je ne me suis pas posé la question d'y aller. Parce que pour moi, enfin, c'est vrai que l'exploitation, c'était plus les brebis, donc les brebis, c'était le domaine de Jean-François. Par contre, où on n'était pas d'accord avec Jean-François sur la transmission, enfin en dehors du stage, hein, C'est que moi, je pensais que notre ferme pouvait intéresser quelqu'un qui ferait de la vente directe ou quelque chose, alors que Jean-François, il ne pensait pas du tout que l'exploitation pourrait être prise dans son ensemble, quoi.
C'était en 2016. Mon frère, pour la transmission, s'est inscrit à un stage de l'ADR. Et puis, il m'a appelé un jour en me disant « Tu veux pas venir faire le stage ?» Bon, et puis moi, alors là, c'était loin. Hein. J'y tenais pas mieux que ça. Et puis après, je lui ai dit « Ouais, pourquoi pas ?» Et puis j'étais au stage, et puis voilà. Mais c'est vrai que pendant le stage, je me disais « Moi, je suis vraiment pas comme les autres. J'étais vraiment à part des autres. » Les autres, ils avaient quelque chose à transmettre. Ils avaient une ferme, ils avaient... Et moi, chaque fois qu'on me posait la question, je dis « Ben, moi, j'ai un troupeau de brebis. » Mais il y a surtout que le stage, on se retrouve avec... Nous, on était 8 ou 10, je ne sais plus combien. Donc, on se retrouve face à... Qui, pour certains, c'est beaucoup plus avancé et puis qui ont vraiment des trucs à céder. Il y en a qui étaient là. En fait, on se rendait compte qu'ils n'étaient pas spécialement prêts à partir. Je ne sais pas s'ils sont à la retraite aujourd'hui. Mon souhait, c'était qu'effectivement, mon fils reprenne le troupeau. Parce que j'avais vraiment insisté sur le troupeau, parce que c'était... Et que si ce n'était pas mon fils, que ce soit un jeune qui reprenne le troupeau et que ce troupeau ne soit pas perdu. Jean-François, donc, je suis exploitant depuis 82. Donc, on s'était rencontrés en tant que salarié en 79. En 92, on a eu l'opportunité de se mettre en GAEC sur une autre exploitation avec une collègue. En 2008, le GAEC s'est dissous. Et on est resté en exploitation individuelle avec Martine jusqu'à la retraite.
2018.
Donc en 2018 jusqu'en 2020, je suis resté tout seul sur l'exploitation. Et en 2020, j'ai pris ma retraite. Quand c'est installé en 92, il n'y avait rien au CRE. Il y avait la maison des propriétaires. Donc on a tout construit, y compris la maison. Donc la maison, on y a passé... Nous, c'était pour nous, donc on y a passé énormément de temps. Tout l'aménagement intérieur. Mais c'est vrai que quand on s'est installé, le seul regret qu'on ait eu, c'est de ne pas avoir acheté la maison dès le départ.
On était fermiers et donc pas propriétaires de notre logement.
C'est vrai qu'on a tout fait dans cette maison. On est parti, on a laissé la maison, en fait. Et ça... Bon, il s'est trouvé qu'on ait trouvé cette maison, qu'on est très bien ici et que par rapport à ça, il n'y a pas de regret. C'est pour la campagne, mais c'est quand même pas... C'est pas la ville, on n'est pas dans le village. On peut tout faire à pied parce qu'on est à 800 mètres des commerces.
On était contents de partir. Il y a eu une période où on aurait aimé rester pour notre retraite. Et puis finalement, on était contents de couper carrément avec notre vie professionnelle, on va dire.
C'est bon, on entend la cuillère qui tourne. C'est vrai que c'est petit. C'est pas... On avait 100... 160 mètres carrés, on est passé à 80...
À peine 90.
Ouais. Mais bon, à deux, après...
On avait
4
enfants.
La maison, souvent, est oubliée. C'est impensé, la maison, dans la transmission. Et pourtant, dans 50 ou 60% des cas, sur les petites fermes, la maison est sur le cours de ferme. Et donc... Transmettre, c'est peut-être aussi transmettre la maison. Enfin, de tout moment, il va falloir y réfléchir. Et ça, il va falloir s'y préparer. En fait, la maison, c'est quoi? C'est la maison d'habitation, certes. De la cave au grenier, mais aussi le jardin, les arbres fruitiers, les animaux, le bâti, le paysage et les voisins. Donc, quitter sa maison, c'est pas rien. C'est aussi le lieu d'entrepôt des souvenirs. Dans une maison, il y en a des choses. Des fois, dans une maison de paysans, il y a l'histoire de générations qui sont entreposées là. Il y a même les enfants qui ont ramené des affaires. Et peut-être même les oncles qui ont ramené aussi des affaires, vu qu'il y avait de la place. Et donc, quitter sa maison, ça va être régler toutes ces affaires-là. Et quelquefois, dans ces affaires-là, certaines sont chargées symboliquement.
François est ravi par le paysage parce qu'il peut surveiller les crêtes directement de la maison et voir s'il y a les brebis dans le pré.
Ça s'est vraiment trouvé comme ça. Mais c'est vrai que quand je suis assis sur le canapé, moi je vois les... il faut avancer un peu, on voit l'antenne là. La maison, on ne la voit pas, elle est derrière la maison. À côté. Mais nos terrains, nous, ils sont juste en dessous de l'antenne. Donc c'est vrai que quand ils mettent les brebis là en haut de la maison, moi je vois les brebis. Bon, on rigole avec Charlie et Adeline parce que des fois je leur envoie un message en disant c'est bon, c'est son entrée, je les vois. Mais là, c'est pas, on n'a pas choisi la maison parce qu'on voulait les terrains. Il faut peut-être pas abuser non plus. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on a. Alors, on est à la campagne quand même, hein, malgré qu'il y ait des maisons autour. Mais... On est chez nous. On ne doit rien à personne.
On peut faire ce qu'on veut chez nous.
Pour la transmission, moi, on n'y pensait pas plus que ça. Et puis, comme c'était configuré, nous, on se disait, de toute façon, après nous, il n'y aura plus de ferme. Puisque les propriétaires avaient dit plus de bâtiments, il restait une maison, et ben, eux, ils avaient 26 ou 27 hectares, nous, on en avait 11. On s'est dit, ben, les terrains vont partir, agrandir les fermes du tour, et puis la maison, ils vont la louer. Donc, Benjamin, qui devait... c'est notre quatrième, et il a toujours le projet de s'installer. Donc, il a eu l'opportunité de reprendre la ferme d'André, mon frère. Il a fait un mois chez mon frère et il s'est rendu compte de l'ampleur du... Je dirais pas qu'il a pris peur, mais il a pas su comment... Enfin, il savait pas comment nous annoncer le truc, à nous ou à mon frère. Mais il a tout de suite dit, j'arrête le projet.
On était presque soulagés. On ne voulait pas l'empêcher de s'installer, hein, où que ce soit, mais on n'était pas très chaud pour qu'il s'installe. Puis je pense qu'il n'avait pas envie.
Quand Benjamin a dit qu'il ne reprenait pas, donc ben, on s'est tous retrouvés un peu bec dans l'eau. Donc on s'est retrouvés, nous, combien de temps ? À peine 6 mois de la retraite, sans repreneur. Donc on avait ce couple de... Enfin, c'est Adeline qui s'est installée dans le couple. Mais Adeline et Charlie étaient déjà venus voir, au départ, l'exploitation. Ce qui les avait arrêtés, eux, c'était effectivement... Déjà qu'il n'y avait pas de bâtiment, et qu'ils auraient voulu à tout prix être propriétaires de la maison. Et ça, c'était... Enfin, les propriétaires avaient dit non catégorique au départ. Et puis donc, les propriétaires, là, ont commencé à nous contacter en disant « Est-ce qu'on ne recontacterait pas Charlie et Adeline ?» Et là, tout de suite, Charlie et Adeline sont revenus, et les conditions avaient changé. Les propriétaires étaient prêts à vendre la maison, à vendre du terrain pour faire des bâtiments. Enfin, tout avait changé. On a l'impression quand même que les propriétaires se sont rendus compte que les conditions qu'ils avaient imposées au départ, on n'installera jamais personne. Si bien que Adeline est arrivée au Cray début septembre, elle est venue travailler 3 mois avec nous, et au 1er décembre, elle était installée, enfin pré-installée. Elle a le permis de construire, le bâtiment va se faire là à l'automne. La maison d'habitation, ben ça, c'est en... ils ne l'ont pas acheté pour l'instant, mais ils ont la promesse dans les années futures que s'ils veulent l'acheter, ils leur la vendront. Et puis bon, ils ont eu un bébé, et puis voilà, c'est parti. Par rapport à la transmission, ça, je trouve que ça s'est vraiment bien passé. Parce que ce qu'on n'a pas dit au départ, c'est que les premiers candidats qu'il y a eu tout à fait au départ, il y en a eu pas mal qui sont venus voir quand même, parce que c'était... Moi, j'étais surpris, mais du fait que ça soit une petite exploitation, il n'y avait pas de gros investissements par rapport à certaines fermes où on arrive à des chiffres... Adeline aurait préféré que ça soit plus long, mais de toute façon, c'est vrai qu'en 3 mois, elle n'a pas tout vu, hein. C'est pas possible. Pour tout voir, il faudrait effectivement qu'il se passe une année complète. Et c'est vrai qu'au début, elle m'a appelé, et si elle avait besoin de moi, j'y allais. Hein. Même maintenant, si elle a besoin, elle appelle... Mais je reconnais qu'il se débrouille bien parce qu'il ne m'appelle pas plus que ça.
C'est vrai que ça fait plaisir, je trouve, que quelqu'un continue une activité qu'on a quand même développée pendant plus de 30 ans. Et puis de voir qu'il continue de s'y investir, d'avoir aussi... comment dire, l'amour de ce métier-là, je trouve que c'est gratifiant, quelque part. Parce qu'on voit que, ben, qu'il y a une continuité avec ce qu'on a fait, qu'on n'a pas travaillé tout ce temps-là pour rien.
C'est l'idée qu'en fait, il y a une forme de greffe, que tout comme fait le cédant, adopte le repreneur, il poursuit quelque part le récit, l'histoire du cédant. Et donc, l'idée de la greffe mythique, c'est de dire comment, en fait, on peut aider un cédant et un repreneur à imaginer une continuité de l'histoire du cédant à travers le projet du repreneur, en lui permettant de vivre aussi, bien sûr, son projet de repreneur.
Moi, je suis Delphine Guillot, donc je suis accompagnatrice installation-transmission à l'ADR de la Loire. Il y a une dizaine d'années à peu près, un peu plus de 12 ans, qu'on a commencé à travailler sur, plutôt avec une entrée sur des questions d'installation. Puis assez rapidement, quand même, on s'est dit qu'on ne pouvait pas, en fait, séparer installation et transmission. Alors, ça paraît évident, voilà, dit comme ça, mais accompagner l'installation, si on ne fait pas en sorte que les fermes en place, elles se transmettent, ben en fait, ça ne peut pas fonctionner. Et est-ce qu'il suffit d'accompagner l'installation pour qu'il y ait des installations nombreuses ? Ben pour nous, non. Enfin, pas que pour nous, d'ailleurs. Hein, pour un paquet d'acteurs, on se dit qu'en effet, si on travaille pas sur la transmission, on passe forcément à côté de quelque chose.
Souffrance, en tout cas, ça
Non,
j'ai pas l'impression non plus.
Non.
On va voir le bâtiment ?
Le futur bâtiment ?
Le futur bâtiment, ouais.
Donc là, on va juste à côté de la maison. Moins de 50 mètres, je pense. Là où on va faire notre bergerie. Donc là, il y avait le poulailler de Jean-François et Martine. Et c'est sur la parcelle où les volailles sortaient qu'on va faire le bâtiment.
Adeline Trouche. Je viens du sud-ouest, du Gers. Et voilà, donc mon parcours m'a menée dans la Loire et à m'installer ici comme agricultrice et éleveuse de brebis. Et j'ai 30 ans, 31. Donc à l'origine, j'ai fait des études à Sciences Po, à Toulouse. Spécialisée plutôt pour travailler dans les ONG. Moi, j'ai toujours voulu travailler secteur alimentation, agriculture, accompagner les agriculteurs. J'ai cherché du travail dans le secteur associatif ou syndical en France. J'ai atterri aux Jeunes Agriculteurs, donc c'est un syndicat agricole. Et là, j'ai rencontré mon compagnon, donc Charlie, qui est lui berger, tondeur de brebis. Donc c'est plutôt comme ça que j'ai mieux connu la brebis. Et l'élevage de brebis. Et voilà, et je me suis installée seule pour le moment, puisque économiquement, on ne peut pas se permettre d'être tous les deux sur la ferme dans un premier temps. Donc Charlie continue de tondre. Et voilà, notre objectif, c'est qu'il puisse s'installer d'ici 4-5 ans. On a cherché à peu près pendant 2 ans une ferme entre le Pila et la plaine rouennaise. On a visité, je ne sais pas, peut-être une dizaine de fermes. Dans ce secteur, on est sur des fermes laitières, beaucoup. Donc, pour s'installer en élevage ovin, c'est très cher, souvent, les reprises. Donc, c'était notre principale difficulté. Au bout d'un moment, on a perdu un peu espoir par ici. On a commencé à chercher dans le Gers, donc chez moi. Parallèlement, donc, cette ferme ici, qu'on avait visitée en janvier 2020, on n'était pas tombé tout à fait d'accord avec les propriétaires, donc on avait abandonné. Ils nous ont recontactés en nous disant que finalement, ils avaient réfléchi, etc. Donc, on est tombé d'accord et là, ça a été très vite. Donc là, on reprend une ferme qui était en ovin. Donc, il y a tous les barrages, toutes les clôtures, c'est déjà des clôtures moutons. Ici, bon, c'était idéal, quoi. C'est un super troupeau de brebis qui a été reconnu au niveau de la race, avec un suivi génétique. Donc, ça, c'est aussi un super plus qu'on a eu. Finalement, ça a été très vite. Donc, je continue de me former là, sur le tas. Globalement, on a quand même été bien accueillis par la majorité des voisins. On s'entraide. On n'a pas trop à se plaindre à ce niveau-là. Enfin, nous, si c'est une installation, je pense que c'est plutôt une installation réussie pour le moment. Et c'est vraiment beaucoup grâce aux cédants. Et là, en l'occurrence, aussi aux propriétaires. Ils avaient vraiment envie d'installer des jeunes, etc., au niveau local, quoi. Et du coup, ils nous ont bien présenté, bien intégré à tout le monde. Je pense que ça, les deux couples, ça a beaucoup fait. On a la vue à 360 degrés, quasiment, ouais, depuis la maison. Et c'est trop beau.
entre la plaine rouennaise et les monts du Forêt. Là-bas en face, on voit, il y a l'antenne de Chalmazel. Donc on a 100 brebis en estive là-bas, on les voit en fait. C'est génial. Et pour le moment, ça sort pas de la Loire. On a l'élevage ici, elles sont en estive là-bas. Les agneaux, ils sont abattus à Charlieu. On fait la découpe chez les voisins à Saint-Symphorien-de-Lay, à la ferme des Délices. Ici, on a eu un coup de cœur directement parce que c'est super beau. Donc Jean-François et Martine, pour moi, ils nous ont transmis une belle ferme qui est en état. Donc ça compte, hein, sur le travail qu'il y a à faire le reste de la, enfin, au moment de la reprise, avec un super troupeau. Donc ça, c'est pour les choses matérielles. Après, ils nous ont transmis, ils continuent de nous transmettre toutes leurs connaissances du territoire, donc territoire globalement, mais aussi du territoire vraiment sur la ferme, quels terrains sont les meilleurs, comment les entretenir, à quel moment il vaudrait mieux faire ci ou ça, parce que... Et moi, plus particulièrement... Jean-François sur les brebis, ça reste une référence. Hein. Il m'a aidé tout l'hiver dernier pendant les agnolages, quand j'avais des questions, que je ne savais pas trop quoi faire, qu'il y avait tel ou tel problème sur une brebis. Donc ça, c'est aussi hyper important. Et il m'a déjà dit que cet hiver, il ne fallait pas que j'hésite. Donc je pense que ça va durer encore un peu comme ça. Tout le parcours à l'installation, c'est quand même le parcours du combattant. Hein. Trouver une ferme, visiter des fermes qui nous plaisent, se projeter, et puis ça ne le fait pas. Et puis, on en retrouve une autre, et puis repareil. Faut être accroché hein, pour trouver. On a déjà évoqué le fait de transmettre plus tard notre ferme. De fait, il y a des façons dont on pense les choses qui vont aider, j'imagine. Parce que le bâtiment qu'on fait, par exemple, c'est d'abord pour nous qu'on l'a pensé comme ça, mais ça, je pense que ça pourra servir. C'est-à-dire qu'on fait un bâtiment, c'est pas un bâtiment spécifique brebis. Je pense que plus tard, le jour où d'autres personnes voudront s'installer, il pourra être facilement réutilisable pour d'autres productions. Pour le moment, c'est une ferme pas très grande, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas trop transmissible.
C'est trop bizarre pour lui, je pense.
C'est surtout qu'on n'y a pas...
Dans la maison de mes parents,
on n'a rien modifié, quoi. On a même gardé des meubles à eux. Ouais.
On a imaginé, en fait, non pas un parcours, mais différentes modalités qui peuvent permettre à des paysans qui commencent à penser transmission, des moments, des endroits, des formats où ils peuvent trouver l'accompagnement, du temps pour réfléchir, pour faire un pas de côté, etc. Donc concrètement, on propose de la formation. Si s'installer, ça demande des compétences et du temps et de l'énergie, etc. Transmettre tout autant. Parce qu'en fait, s'inscrire dans une formation pour un cédant, c'est déjà un sacré pas. Ça correspond à un certain nombre de paysans futurs cédants, mais il y a tout un tas de gens qui sont en amont de ça. Pour quelqu'un qui va transmettre, c'est arrêter son activité. Forcément, on n'est pas toujours dans la même énergie que quand on s'installe. Donc, c'est pouvoir aider la personne à se dire bah, « qu'est-ce que je vais faire après ?»« ça va être quoi ma vie après ?» Parce qu'une des particularités en agriculture, c'est que vie privée et vie professionnelle sont très... C'est très pour eux, en fait, par rapport à d'autres métiers.
Vous êtes là sur l'exploitation que j'ai travaillé depuis à peu près une quarantaine d'années. Donc, je suis Serge Grange, là, de Saint-Helmier. J'ai passé donc, toute ma carrière, trois quarts de ma carrière en GAEC. J'ai été en GAEC avec mon beau-frère et puis avec mon épouse également. Et donc, j'ai terminé ma carrière. Donc là, au mois de février, j'ai pris ma retraite. Les cinq dernières années, j'étais tout seul donc, sur l'exploitation. Bon, j'ai commencer à regarder justement la transmission, qu'est-ce que je pouvais faire pour pas finir tout seul déjà, et puis transmettre. J'étais persuadé que l'exploitation, j'ai deux enfants, deux fils, et j'ai été persuadé qu'il y en a un des deux peut-être qui reprendrait, comme beaucoup d'agriculteurs en général. et manque de peau, enfin, ou c'est comme ça, là, ils ont choisi un autre métier. Et du coup, la dernière année, j'ai arrêté la production laitière, j'ai pris la décision d'arrêter la production laitière. J'ai dit, même si je transmets l'exploitation, si je trouve quelqu'un, ça peut se transmettre quand même. Il y a des trucs tout bêtes, hein, mais je ne me voyais pas arrêter le lait parce que je me disais, mais tu vas pas acheter le lait. Tu vas pas acheter le lait, c'est pas possible. Moi, j'avais l'habitude de manger des châtaignes à l'automne avec du lait. Je me disais, je vais pas manger des châtaignes avec du lait acheté en boîte. C'est pas possible. Puis je vais pas aller acheter mon lait dans une ferme. Et aujourd'hui, qu'on a arrêté le lait, on achète le lait, quoi. Et je vais même pas chez les voisins acheter le lait. Parce que... C'est la facilité, c'est pas la simplicité. C'est pour simplifier la vie, c'est pas... voilà. Mais je pourrais y aller parce que j'ai le temps en plus. Et puis bon, bah après, j'ai pris ma retraite là, donc début février. Et puis j'avais trouvé personne. Enfin. J'ai pas fait des démarches phénoménales non plus au niveau de la Chambre d'agriculture, ni au niveau d'associations que je connaissais pas trop à l'époque. Je pensais que, dans ma tête, je m'étais dit, de toute façon, si quelqu'un est intéressé, il viendra. Voilà, chose qu'il ne faut jamais faire, parce que si on ne s'adresse pas à une association ou aux autorités, c'est comme si on se trouvait dans les airs, personne ne vient vous voir, hein, ou presque. À Passy, à part les voisins ou d'autres agriculteurs qui cherchaient à reprendre pour s'agrandir, mais reprendre l'exploitation elle-même, non. Donc l'exploitation aujourd'hui s'est arrêtée, bon. Je pense que pour être préparé à céder une exploitation, c'est, il faut le faire au moins, je dirais minimum, 4-5 ans en arrière. Enfin bon, je pense que c'est un peu ce qui se fait actuellement. C'est psychologique, c'est matériel. Vous ne séparez pas comme ça d'un bâtiment, d'un matériel quand vous avez vécu dedans toute votre vie. La transmission, je pense que c'est énormément de soucis. Par expérience, maintenant je peux le dire, mais il ne faut pas vouloir la faire tout seul. Il faut se faire accompagner parce que c'est surtout au niveau relationnel. On n'est pas préparé. Pourtant, moi j'ai cru que le dernier jeune que j'avais, j'étais persuadé que j'allais pouvoir gérer tout ça parce que je le connaissais. J'ai pas su peut-être m'adresser aux jeunes. J'étais trop paternaliste. J'ai trop voulu les protéger à un moment donné en leur disant « Fais attention, fais pas ça, fais pas ci. » Et eux, ils étaient comme moi quand j'avais 20 ans. Ils ont dit « Mais qu'est-ce qui me casse les pieds ? Foutez-moi la paix, je suis assez grand. » Quitte à avoir une tierce personne pour dire les choses, on a peur de choquer, on a peur de... voilà. Quitte à avoir une tierce personne qui s'adresse à l'autre pour lui dire, voilà, il y a eu un souci la semaine dernière, vous étiez en conflit. Et ça, c'est le rôle de l'organisme qui s'occupe de la transmission. Moi, à mon avis, c'est le rôle. Dans les trois expériences que j'ai eues, j'ai eu jamais aucun souci avec le travail. C'est pas sur le travail qu'il y a un souci. On est à la stabulation, qui est vide aujourd'hui, malheureusement. Sinon, la salle de traite est en cours de démontage. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est le devenir du bâtiment. On avait une quarantaine de laitières, là, sous le bâtiment. On pouvait monter jusqu'à 50 laitières. Donc c'est pour ça que les jeunes qui étaient venus là pour les stages reprises, ça allait bien, parce que c'était leur objectif. Donc 45-50 laitières, ça passait là. Ils n'avaient pas de travaux à faire pour s'installer. Il faut espérer que ça ne devienne pas une friche agricole. La seule chose que je suis satisfait, c'est d'avoir pu organiser la redistribution des terrains. Même si je n'étais pas propriétaire de beaucoup des terrains, j'ai pu influencer de façon à ce que ça ne parte pas n'importe où. C'est essentiellement les voisins ici qui ont pu s'agrandir, qui en avaient besoin. Et sur Vosges, c'est un jeune qui était installé depuis 2 ans. Il a pu tout reprendre. Voilà. Donc ça a conforté une exploitation qui était compliquée aussi. Et là aussi, sur Saint-Helmier, c'est pareil. Ça a bien conforté les exploitations en production bio qui manquaient de surface. Voilà. Et après, je ne sais pas la destinée du bâtiment. Je ne sais pas s'il va partir dans une autre bois ou... ou s'il va rester agricole, je ne sais pas. On verra bien.
Ça, c'est pas un champ de fleurs. Enfin, si, c'est des fleurs, mais actuellement, c'est tout fané. Hein.
J'ai été locataire fermier pendant 90% de ma carrière. Et les propriétaires ont décidé de vendre les dernières années qui me restaient. Quoi. Et j'avais pas le choix. Soit j'achetais, soit j'étais presque obligé de partir. Quoi. Et moi, je voulais finir ma carrière agriculteur, je voulais pas m'en aller ailleurs. Quoi. Aujourd'hui, on change pas d'exploitation comme ça, c'est pas facile. Donc, on a acheté, là, et puis bah, c'est vrai que le fait d'acheter, on devient propriétaire et on a plus de mal à quitter les lieux, quoi. C'est clair, hein. On dit le côté travail, mais le côté travail, bon, c'est vrai qu'on dit un agriculteur, il ne peut pas s'arrêter, il faut qu'il garde une activité parce que sinon il va tomber malade, il va déprimer. Moi, ça n'a pas été mon cas parce qu'il y avait quelque chose à moi pour m'occuper. Et puis, c'est peut-être le côté, je m'étais le mieux préparé. Je suis à la retraite sur le papier. Moi, j'ai gardé une production de d'âne fermière pour Noël. Là, et on a gardé également la production de fleurs à couper que je fais au printemps. Et puis en plus, bah depuis un an, là, je suis élu sur la commune de Saint-Imier et en charge du secteur espace vert, tout ça, là, conseiller délégué. Donc ça m'occupe aussi pas mal. Quoi. Puis je suis quelqu'un qui n'aime pas... je peux rester une demi-journée sans rien faire, ça ne me gêne pas. Mais je crois que la production laitière, il faut savoir, le jour où ça ne va plus... Il faut savoir s'arrêter. J'aurais dû m'arrêter il y a peut-être 10 ans. Moi, je vivais plus de la production des bulbes que du lait. Donc, j'ai une jeune fille, donc Amélie, là, justement, qui est venue me voir, là, qui me loue un local là, pour sa production d'abeilles, là, pour les ruches. Là. Et donc, au niveau horticole, aujourd'hui, la seule chose, c'est qu'elle envisage peut-être, justement, de reprendre les fleurs à couper en pivoine. Voilà. Elle m'en a parlé, ça l'intéresserait éventuellement. Bah, j'ai dit, écoute-moi, je te forme à ça, et puis, bah, si tu veux, dans 2-3 ans, tu reprends. Donc, ça sera un petit soulagement, quoi. Compensation au niveau de la reprise, quoi. J'aurais transmis une partie, quoi.
En fait, on considère vraiment que toute ferme est transmissible. Un cédant, par exemple, va se représenter sa ferme comme non transmissible. Ben, peut-être qu'on peut lui proposer par diverses choses de faire un pas de côté pour bouger ses représentations. Parce que si lui, il est persuadé que c'est pas transmissible, il va rien se passer, ça c'est sûr. On peut essayer de se dire, eh bien, comment ça se construit pour un paysan ? Cette représentation de la transmission, en fait. Quels sont les éléments qui fondent sa vision de la ferme avec le regard de la transmission? Il y a des choses qui viennent de lui. Ça va être son histoire, sa propre installation. Ça va être aussi sa capacité à se projeter. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des endroits autour de lui où ça va influer cette représentation. Alors, ça va être la perception de sa ferme, de son outil de production, de la rentabilité économique, s'il maîtrise ou pas le foncier. Mais il y a aussi la vision de son métier. S'il considère qu'il a beaucoup travaillé, qu'il s'est usé à la tâche, ça va pas, il ne va pas avoir la même représentation de la transmissibilité que si c'est un paysan qui est ravi, fier de ce qu'il a pu accomplir. La teinte ne va être pas la même. Et puis, il y a aussi, sur le territoire, ce qui se passe et ce qu'il voit, ce qu'il perçoit en termes de dynamique d'installation, de transmission, va aussi influer. Et puis, la dernière chose, sans doute, c'est sa vision aussi sur les repreneurs.
C'est difficile comme question. Oui, il faut que ni les cédants ni les repreneurs soient fermés sur leur,
leurs idées, mais prêts à accepter les remarques des uns des autres. Et ben, les aidants, il faut qu'ils acceptent que les repreneurs ne fassent pas exactement comme eux, voire changent tout.
Déléguer un pouvoir, le passer à un successeur, en cessant soi-même une fonction. C'est-à-dire que la transmission, c'est une idée de continuité.
C'est pas forcément transmettre exactement comme je faisais.
C'est beaucoup de choses, c'est vaste, mais il y a une chose que c'est pas, c'est que ça peut pas se réduire à une simple vente au plus offrant. Ça, c'est pas une transmission, c'est une vente. Ça pose dans la définition de la transmission l'importance du maintien d'actifs agricoles, de paysans nombreux, de territoires ruraux dynamiques.
Transmettre un savoir-faire et puis que ça continue après nous, en fait.
Par ordre d'apparition, vous avez pu entendre dans cet épisode Dominique Lataste, Jean-François et Martine Piau, Adeline Trouche, Delphine Guillot et Serge Grange. Un grand merci à elles de nous avoir confié leur témoignage. Cette série radiophonique a été co-réalisée et écrite par Élodie Butin-Federici, Claire Leroy, toutes deux accompagnatrices installation et transmission, et Clémence Koulik. Prise de son, Simon Pocher. Accompagnement à la réalisation et à l'écriture, au montage et au mixage, Clémence Koulik. Ce projet est porté par l'ADR de la Loire, association du réseau de l'agriculture paysanne.
Les ondes buissonnières.
Oui.
Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.